je vais vous parler en fait de deux psychiatres qui n'ont pas travaillé dans cette région, mais qui peuvent d'une certaine façon y être associés et qui, à leur façon, ont aussi participé à un certain effort de guerre pendant ce premier conflit mondial. Alors, je vais donc évoquer le docteur Maxime Dubuisson et le docteur Benjamin Payas. Maxime Dubuisson, lui, a travaillé donc dans le sud-ouest et Benjamin Payas également. Le docteur Dubuisson était quand même originaire de la région puisqu'il était né dans le Pas-de-Calais. Il était né à Saint-Tricard en 1851. Et Benjamin Payas, lui, en 1862, dans le Tarn. Donc, c'est des générations très proches et ils vont avoir un parcours et un intérêt commun, tous les deux, pour des œuvres, des productions de patients, avec quand même des champs de recherche un petit peu différents, ce que je vais essayer d'exposer. Alors, c'est une étude sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, il y a des œuvres qui sont dans les collections du musée, au LAM, d'autres qui sont toujours à Albi, dans la collection constituée par le docteur Payas. Donc c'est une collection qui a été pour l'instant peu étudiée, mais pour laquelle il y a un travail qui est en cours actuellement. Donc vous voudrez bien m'excuser, à la fois pour la qualité de certaines images, qui ne sont pas extraordinaires, et puis de recherches qui sont de toute façon à compléter et à enrichir. Alors, l'image que vous avez sous les yeux, c'est une image que j'ai trouvée récemment dans un cahier qui est conservé dans la collection Payas à Albi, donc dessiné par un patient en 1915. Je vous en reparlerai un petit peu après avec un texte assez évocateur. Je n'ai pas peur d'un Français maintenant que je suis crevé par un obus. Vive l'Allemagne. Et on voit les canons côté français qui s'opposent à ceux de l'Allemagne et avec une barrière entre les deux. Et les pages qui précèdent ce dessin et les pages qui suivent sont des sortes de gribouillis assez denses, avec à l'opposé de ce dessin-là, pas du tout d'image figurée. Alors, le docteur Lucien Bonafé aimait dire que son grand-père Maxime Dubuisson était un personnage extraordinairement contestataire. C'était un personnage étonnant, très amateur de poésie. Il avait une importante bibliothèque poétique dans laquelle je me plongeais souvent. Puis, Bonafé évoque la maison de son grand-père, un musée où était rassemblée l'œuvre de la folie. Mes jouets d'enfant étaient surtout cadeaux de leur part, et la découverte du dessin, de la sculpture et des objets du décor de la vie au foyer était spectacle d'œuvres de fou. C'est probablement à cette heure que j'ai appris à ne pas traiter les productions des fous dont ma vie a été jonchée comme objet de regard pathologique. Donc ça, c'est un témoignage extrêmement important. Et Lucien Bonafé va garder toute sa vie les œuvres que son grand-père avait collectées. Donc, en particulier, deux albums qui sont dans la collection du musée et que je vais vous présenter bientôt. Alors, Maxime Dubuisson a travaillé tout d'abord au bureau des statistiques de la préfecture de la Seine, de 1876 à 78. Vous avez ces dates, en fait, qui sont des documents qui proviennent de son dossier pour obtenir la Légion d'honneur. Il devient interne à l'asile de Saint-Yon à Rouen, puis médecin adjoint de l'asile de Mayenne en 1880, avant de devenir médecin-chef de l'asile de Leim dans le Lot. Donc on voit, il descend peu à peu dans le sud. Et donc il est dans le Lot de 1880 à 88, puis il revient dans la moitié nord, puisqu'il est chargé de la construction de l'asile de Dury, à côté d'Amiens, de 1888 à 90, avant de terminer sa carrière comme médecin-directeur de l'asile de Bracqueville à Toulouse, de 1892 à 1908. Et en 1914, donc à la retraite, il décide, alors que de nombreux médecins sont sur le front, sont mobilisés, il décide de reprendre du service pour diriger cette fois l'asile de Saint-Alban en Lozère. Saint-Alban, maintenant qu'on appelle Saint-Alban sur les Magnols. Donc de 14 à 1915, il sera à Saint-Alban, puis de nouveau à Bracqueville jusqu'en 1918. Puis après, il reprend sa retraite et il s'installera à Figeac. Alors, Dubuisson avait donc un goût certain pour la poésie et il écrivait en vers les lettres qu'il adressait au préfet de Lozère pour donner le bilan et expliquer ce qui se passait dans l'hôpital de Saint-Alban. Donc là, je vais le citer. Dans ce pays sauvage et rude, à 1000 mètres d'altitude, l'administration cynique envoie ici ses fous d'Afrique. Donc ça, c'est un texte qu'il écrit en 1915. Et donc Dubuisson, attentif aux patients, fait en sorte d'améliorer leur quotidien, comme en témoigne le rapport annuel, où il écrit « Il y a beaucoup à faire et à refaire à Saint-Alban, mais on peut arriver à ce que les malades soient convenablement soignés. C'est le bonheur que je souhaite aux pauvres fous que j'aime et qu'il m'a été doux de revoir et de consoler. » Alors, cette attention, on verra, elle lui a permis de constituer deux albums. Donc un album de petit format, qui est celui que vous voyez en haut sur cette image, et un autre album de plus grand format. Et dans ces albums sont collectés des dessins qu'il a collés. Donc c'est des albums qui font penser à des albums photographiques. Donc un qui est un album donné par la phosphatine Falière, celui du haut. Et on voit des dates, avec sur celui du haut un dessin qui date de 1899 et l'autre de 1900. Et ces dessins, il les a collectés sans doute à Bracqueville, déjà à Bracqueville, c'est quasi sûr, et puis à Saint-Alban, et peut-être aussi dans l'hôpital précédent, peut-être déjà à Laim. Tous les dessins ne sont pas datés. Certains, il y a des dates, et après on croise par rapport à des noms de patients quand ils apparaissent, ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Alors voilà quelques images de Saint-Alban, qui est un lieu très isolé, un hôpital qui a été créé en 1821 et qui recevait donc des patients de Lozère et puis après qui va recevoir après des patients du sud du bassin méditerranéen et également d'Afrique, comme le site du Buisson. Donc c'est un hôpital qui est installé dans un château, dans une forteresse féodale du XIIIe siècle, qui a été remaniée, complétée, enjolivée avec des éléments de construction en pierre rose qui font sa caractéristique. Et on verra que ces éléments vont frapper certains patients qui sont soignés. Et l'hôpital existe toujours, si ce n'est que les patients ne sont plus hospitalisés dans la partie château, mais tout autour. Et on voit, c'est vraiment situé sur le haut d'une colline, c'est à 1000 mètres d'altitude, c'est très isolé, c'est froid, c'est rigoureux, c'est la Lozère. Et c'est un lieu qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc ça je ne l'aborderai pas, mais qui va être un lieu de résistance très important avec la présence de Lucien Bonafé et de François Toscaillès. Et puis d'autres personnes qui vont y passer, le philosophe et médecin Canguilhem, entre autres, et puis après Jean Houry, après la guerre. Donc ça, c'est encore un des documents écrits en vers par Dubuisson, envoyé cette fois pour constituer son dossier de demande de Légion d'honneur dans les années 1920. Et puis ici, un poème, je vais juste en citer un passage, où on voit donc une malade qui est en train d'écarter des grilles, des barreaux. Et donc c'est chez les fous. Où la tête a passé, tout le corps passera. Que signifie alors cette stupide image montrant un cabanon où la folle pourra, par un léger effort, se frayer un passage ? Les récits, les dessins montrent bien que l'auteur du livre « Chez les fous » et le dessinateur nous le font à la blague et toutes leurs histoires rappellent les tréteaux des baraques de foire où les pitres, voulant peindre l'humanité, déforment constamment la simple vérité. Pendant plus de 30 ans, j'ai connu les asiles où jamais je n'ai vu lancer les projectiles, de vaisselle ou de plat, ni tout ce branle-bas dégoûtant qui dépeint la scène du repas. Tout ça, c'est du chiquet, ce n'est que du battage. Pour mes amis les fous, n'ayant nul avantage, le seul effet produit sera pour les parents des pauvres internés un motif de tourment. Donc ça, c'est écrit en 1925, à Figeac. Et donc, dans les albums, on découvre des dessins de styles très différents, très mélangés. Il n'y a aucune explication, il n'y a pas apparemment de logique dans la collecte. Il n'y a pas de classification chronologique, mis à part une petite étiquette au début de chacun des deux albums. En tout cas, il témoigne de l'intérêt de Dubuisson pour des productions dessinées. Alors, il a dû garder aussi des objets qui ont apparemment été détruits. Il y a peut-être des choses qui pourront peut-être un jour réapparaître, mais pour l'instant, en tout cas, moi, je n'ai travaillé que sur cette partie dessinée qui donc nous montre une pratique qui était autorisée dans l'hôpital, encouragée. On voit donc le portrait de Dubuisson qui est collé là sur une des pages. Et puis des témoignages, soit qui sont des copies d'images qui devaient circuler dans l'hôpital, de journaux, de revues, sans doute des revues telles que l'illustration, des reproductions de peintures, à dire très classiques. En bas, on voit un tableau inspiré de la Joconde avec François Ier à côté, et puis un portrait issu d'un tableau de Rembrandt. Et puis après, une représentation d'un soldat, d'une femme qui s'appelle la Dame, et puis d'autres types d'objets. Là, un texte qui parle de nouveau de l'Afrique et qui explique aussi cette sorte de mixité qui existait à Saint-Alban. Donc un lieu qui montre, à travers ces images, un intérêt pour la politique aussi, très très forte, très marquée. Donc il y a une représentation de la politique, enfin, du politique qui va apparaître très fréquemment. Et puis des éléments qui peuvent donner quelques éléments biographiques des patients qui sont là. Ou des œuvres absolument uniquement décoratives, enfin, qu'on pourrait qualifier de simplement décoratives, mais qui sont aussi, d'une certaine façon, très inventives dans le tracé, surtout pour le vase qui est complètement à droite, avec ces fleurs qui semblent envahir peu à peu la composition. Donc ça, il y a plusieurs dessins dans les albums qui sont anonymes, qui restent anonymes pour l'instant. Et des représentations de batailles. Donc ça, il y en a beaucoup dans ces deux albums. Donc la Lozère, c'est loin du front, mais néanmoins, les informations circulent, les journaux sont diffusés. Et les patients, donc, ont ces images sur lesquelles certains vont donner quelque chose à voir. Et c'est aussi à leur façon, peut-être aussi, de témoigner de leur non-participation à la guerre, mais aussi de leur implication et de leur intérêt pour ce qui se passe sur le front. Donc là, deux scènes de représentation très, très différentes. Hein. Une qui fait presque penser à une sorte d'image de bande dessinée, celle qui est en noir et blanc. Et puis l'autre qui est presque une image... plus une image photographique. Donc là aussi, c'est encore anonyme. Et puis, des représentations donc, de militaires, ça, il y en a énormément, de généraux, de scènes de bataille. Et puis, d'autres scènes de la vie quotidienne, on pourrait dire, des grandes du monde de l'époque, puisque le dessin qui est en bas, alors là, qui est identifié d'un dénommé Jean-Baptiste Coulon, représente les altesses, les petits-fils de Guillaume II, l'empereur d'Allemagne. Et là, ça a été fait donc en 1915. Donc un regard aussi sur des scènes. Donc là, on pourrait se dire qu'il devrait y avoir quasi une censure sur ce genre d'images, mais ces images-là aussi, elles sont là, et elles vont frapper les patients et ils vont les reproduire. Et la page suivante, on découvre de nouveau un dessin inspiré de Rembrandt, et puis une représentation de la porte du château de Saint-Alban. Donc là, toujours par Coulon. Et les d'autres pages, cette fois avec des scènes de blessés, avec des intitulés « Honneur et devoir », « Le coq gaulois », qui revient aussi très souvent, « Chanteclerc », le thème de Chanteclerc. Et là, le petit dessin qui est à droite, lui, est un texte qui est sans doute dessiné par un dénommé Jaurès. Le nom est gommé, Donc dans les albums, il y a des noms qui ont été volontairement effacés. Donc là, c'est il s'appelle Charles Jaurès, c'est pas toujours facile à lire, et c'est souvent, il écrit des textes où il fait des sortes d'énumérations et d'inventaires de mots à travers des jeux de mots autour du nom et du mot Jaurès. Donc j'aurais, j'aurais pas. Dans ce texte-là, il évoque j'aurais, j'aurais pas de souliers. Et Jaurès, il y a une sorte de, il évoque aussi le parti de Jaurès, les oppositions contre Jaurès. Et là, c'est le même. C'est Jaurès aussi qui dessine ici. Donc là, on est proche de la caricature des revues, des journaux qui étaient extrêmement présentes à l'époque dans les magazines. Là, un dessin de squelette en partie haute. Donc voilà, je vous montre un petit peu toute cette densité, cette richesse de ces albums. Donc là aussi, c'est Jaurès qui dessine de façon extrêmement précise et quasi photographique des représentations de gravures avec Danton et Général Chanzy. Et puis ici, un petit dessin à gauche qui représente Guillaume II avec la mention Guillaume II, on le tient, 1914, avec à haine pour les Anglais, les Russes, la Belgique et la France. Alors ça, c'est un dessin qui n'est pas signé, mais qui est d'Auguste Forestier. Auguste Forestier, qui est un patient qui a passé une très grande partie de sa vie dans l'hôpital de Saint-Alban et qui est connu en particulier, pour certains d'entre vous qui sont déjà venus au musée, pour des animaux sculptés ou des personnages mi-hommes, mi-animaux. Et en fait, il va commencer par dessiner. Et pendant longtemps, ces dessins étaient totalement inconnus. Et c'est en feuilletant ces albums qu'on a retrouvé l'existence des premières productions artistiques d'Auguste Forestier. Et Forestier était absolument fasciné par les militaires. Et là, on le voit, c'est un autoportrait qu'il a dessiné, qui est dans un des albums, qui a été coupé d'un des albums et qui en faisait partie à l'origine. Donc un autoportrait qui s'intitule Forestier élu. Élu le 20 juin 1914, qui est l'année et le jour précis où il va être interné dans l'asile de Saint-Alban. Alors Forestier, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de fuguer depuis son adolescence, de partir, de quitter, de prendre le train, d'aller loin. Il était originaire de Lozère, d'un tout petit village, d'une famille paysanne, mais il était fasciné par le départ, par aller ailleurs, mais régulièrement, donc il était ramené dans sa famille jusqu'au jour où il va faire quelques séjours dans un hôpital psychiatrique à côté du Puy-en-Velay quand il était adolescent, et puis un jour de 1914, il va mettre des cailloux sur une voie ferrée et il va faire dérailler un train. Donc à la suite de ça, il est interpellé et il est emprisonné. Et quand il est interrogé, il arrive lors d'un interrogatoire avec son poitrail recouvert de médailles, donc très sans doute proche de son autoportrait tel qu'on le voit là, dessiné. Et il avait donc réussi à trouver des matériaux dans la cellule pour sculpter des petites médailles. Et quand on lui a demandé une explication pourquoi ces médailles et pourquoi il avait fait ce geste de faire dérailler un train, il a dit qu'en fait, on lui avait donné, c'était la compagnie de chemin de fer qui lui avait donné ces médailles pour le remercier d'avoir fait dérailler le train. Donc, à la suite de cette instruction, il a été examiné par un médecin qui a considéré qu'il ne pouvait pas expliquer ses actes. Et les conclusions ont conduit Forestier à l'hôpital de Saint-Alban, à l'asile de Saint-Alban, donc à partir du 20 juin 1914. Donc c'est une date symbolique pour lui très forte, puisque c'est son début d'internement. C'est le moment où le conflit est en train de se préparer, si je puis dire. Le 28 juillet, c'est l'attentat à Sarajevo. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Et Forestier, qui, lui, a une trentaine d'années, normalement aurait dû partir au front, donc n'ira pas. sans doute, donc peut-être aussi tout cela fera qu'il aura cet grand intérêt et ces reproductions régulières de soldats. Et sur le dessin qui est à droite, on le voit, alors là c'est pas un dessin de Forestier, c'est un dessin de Gérard Vulliamy, qui était un peintre artiste du milieu surréaliste, qui viendra à Saint-Alban en 1945, et qui va dessiner des patients, et qui vont en fait illustrer après un poème d'Éloire, que Éloire a écrit à Saint-Alban en 1943. Et là, c'est un portrait de Forestier, donc, et on le voit encore avec une casquette et un petit objet posé sur sa casquette. Et il est dit dans les dossiers qu'il avait toujours beaucoup de médailles sur ses vêtements et un très grand intérêt pour les choses qui brillaient comme ça et qui lui permettaient de se distinguer aussi des autres patients. Donc là, un petit dessin encore de 1914 où on voit déjà un goût de Forestier pour les animaux un peu étranges, un peu hybrides et qui vont faire, enfin, il va être après plus connu pour ces animaux étranges qu'on dit avoir commencé à être fait dans les années 30, 40, mais peut-être en a-t-il fait auparavant, mais en tout cas pour l'instant, non, on ne connaît pas de précis. Et on le voit là, où il a dessiné une sorte d'animal étrange qui tend une tête de porc à la sœur Céline, qui était donc une des religieuses qui s'occupait des patients de l'hôpital. Et il lui parle d'une bonne cabèche de porc. Là, un dessin inspiré d'une fable de La Fontaine. Donc ça, c'est encore un mélange, c'est un dessin de Coulon, je passe vite. Et puis là, un dessin de Forestier, hein, Victor Emmanuel III, roi d'Italie. Donc très précis, très bien dessiné, très ornementé aussi, avec des formes symboliques qu'on va retrouver dans toutes les œuvres de Forestier. Et à côté, un autre dessin, mais cette fois de Coulon, qui représente l'empereur de Chine. Une scène de bataille inspirée où pour l'instant on n'arrive pas à expliquer le pourquoi de ces sortes d'étranges chapeaux qui vont coiffer les personnages de Forestier, très ornés, très très décoratifs, et puis une sorte de bataille d'armes, des poinçons, des canons, des piques et marteaux qui créent une sorte de petite bataille, petite confrontation entre ces deux personnages affrontés. Et là, une représentation de scène de guillotine aussi, et des différentes représentations aussi symboliques de la patrie, avec la Patria, Gallia, Cérès. Donc là aussi, on est dans des représentations militaires. Et un autre, donc deux autres dessins de Forestier, avec des Allemands qui se donnent un coup de pied aux fesses pour aller sur le front. Et là, un mélange d'œuvres de Forestier, donc à la fois des Mariannes, ce qu'on appelle les Mariannes, des reliefs de personnages, puisqu'il a transcrit en bois, donc des portraits qui sont très proches de ceux qu'il pouvait représenter de façon dessinée. Et puis là, des personnages qu'il a fait aussi en des soldats, beaucoup, beaucoup de militaires, avec des matériaux qu'il récupérait partout dans l'hôpital, qu'il assemblait, qu'il constituait, qui pouvaient être vus comme des jouets et qui étaient utilisés par certains enfants d'infirmiers, de soignants, comme jouets, et qui les ont véritablement utilisés. Maintenant, on les voit plus comme des objets sculptures, mais Forestier les avait pensés plutôt comme des jouets. Et je ne connais pas de représentation de féminine. Il n'y a que des animaux ou des personnages à tête d'animaux, mais qui sont toujours des personnages masculins. Et l'autre personnalité que je voulais évoquer, c'est le docteur Benjamin Payas, alors qui est lui d'une dizaine d'années plus jeune que Maxime Dubuisson. Et Benjamin Payas, lui, est originaire du Tarn, né en 1862, et a travaillé quasiment toute sa vie dans l'hôpital du Bon Sauveur à Albi. Alors, jusqu'à présent, il n'y avait pas de traces précises de lien entre Dubuisson et Payas. Mais récemment, j'ai trouvé des documents qui attestent des échanges d'œuvres, de patients entre les deux médecins. Sachant que donc Dubuisson ayant travaillé à Bracqueville, Toulouse n'est pas très loin d'Albi, et Albi n'est pas non plus très loin de Saint-Alban. Alors, Payas, c'est un médecin qui va constituer une collection. Donc, est-ce qu'il l'a commencé avant Dubuisson? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais il a un intérêt pour les objets, peut-être un peu différent de l'intérêt de Dubuisson, sachant que lui va véritablement constituer une collection qui va être présentée dans l'hôpital du Bon Sauveur, donc de son vivant, et qui est toujours la propriété de l'hôpital du Bon Sauveur. Donc c'est la seule collection, collection asilaire, issue d'un asile, encore existante dans un hôpital, pour en tout cas une collection très ancienne, et qui peut se visiter de temps en temps, et dont on va présenter un ensemble au musée cet automne. Collection donc qui a vraiment été pensée par Payas comme collection d'études et collection pour montrer l'intérêt des productions aussi des malades qu'il pouvait soigner. Donc, voilà quelques objets qui ont été collectés par le docteur Payas. Donc là, on s'éloigne plus du contexte médical, mais c'est aussi un lieu où des patients vont venir être soignés pendant la guerre, et on va retrouver quelques représentations. Alors, de façon étonnante, il y en a moins qu'à Saint-Alban. À Saint-Alban, il y a beaucoup de dessins dans ceux collectés par Dubuisson, et en particulier les dessins de Forestier et de Coulon. Dans les œuvres, en tout cas dans celles que j'ai pu voir, mais ça demanderait être sans doute plus étudié. Et puis, il y a peut-être aussi des documents qui ont disparu, et il y a peut-être aussi une censure qui a été faite au sein de l'hôpital, et des dessins qui n'étaient pas forcément gardés. Pour l'instant, j'en ai retrouvé en fait relativement peu. Parfois, il y a des petites représentations d'armes, mais il n'y a pas grand-chose, en fin de compte. Alors, Payas, c'est quelqu'un donc, qui va avoir aussi une activité reconnue dans le milieu médical, et qui va écrire nombreux articles dans l'Encéphale ou les Annales médico-psychologiques, et qui va avoir beaucoup d'échanges aussi avec le docteur Marie. Le docteur Marie, qui est un médecin important, qui va constituer également, lui, une collection de patients dès la fin du 19e, le tout début du 20e siècle. Alors, Payas, ça, c'est l'exemple de deux publications. Donc, là, c'est de 1908, où on voit des objets donc, qu'il avait à l'époque dans sa collection, qui ont totalement disparu maintenant, trop fragiles. C'est des objets qui étaient un arbre qui était fait en mie de pain, et avec des tout petits morceaux de bois assemblés, et puis à côté une fresque qui était dans l'hôpital et là aussi qui a disparu maintenant, et une autre petite composition en mie de pain qui a présenté un patient qui se mettait en scène en fait avec le diable. Et là donc ça faisait l'objet d'une étude sur les productions artistiques de deux aliénés dits circulaires par Payas. Et là, c'est un autre texte de 1908 également, de l'art primitif chez l'aliéné, et à côté une collection de tout petits cailloux qu'il a gardés et qui était fait par un malade qui devait ramasser des cailloux dans les différentes cours de l'hôpital et les sculptait avec des petites représentations, des petites figures. Parfois, ça fait 1,5 cm de haut. C'est des objets très, très étonnants, presque comme des sortes de petits objets magiques. Donc c'est une collection qui réunit à peu près 800 œuvres, à la fois des dessins, des sculptures, des broderies et beaucoup de cahiers. Donc les cahiers, ce qui veut dire que les patients étaient encouragés à dessiner, qu'on leur donnait des supports pour pouvoir réaliser des œuvres. Et Payas va classer les productions selon quatre catégories, ce que ne fait absolument pas Dubuisson. Dubuisson, lui, il collecte, on sent une sorte d'attirance presque poétique pour les œuvres. Payas est un petit peu différent, il est dans à la fois une information sur le patient, éventuellement sur le métier du patient, sur sa formation, sur sa maladie, et il va créer quatre catégories, le dégénéré à mentalité débile, avec essentiellement des tatoueurs et des imagiers sur les murs, les fous circulaires, les maniaques et les démences constituées. Et à partir de ça, il constitue des planches sur lesquelles il va fixer les dessins, et parfois avec des petits dessins, des petits commentaires. Alors malheureusement, maintenant, très souvent, les petits papiers commentés ne sont plus à côté des dessins. Les choses ont été, des problèmes de conservation, ont été un peu mal déplacées. Donc il y a toute une histoire à essayer de reconstituer pour pouvoir rentrer dans la classification proposée par Payas. Là, par exemple, c'est un dessin dans lequel il commente que le malade avait trouvé un crapaud desséché dans la cour, et il va dessiner un crapaud, trouvant que le crapaud représente à une religieuse qui soignait les malades. Et là, donc l'évocation très rapide du docteur Marie, Auguste Marie, qui était donc un médecin à Villejuif, qui va réunir une collection d'œuvres de patients et en parler dans une revue extrêmement populaire, Je sais tout, qui était une revue de grande vulgarisation. Donc là, on n'est pas du tout dans un texte publié dans des revues médicales, pour faire connaître sa collection constituée de patients, peut-être des échanges entre Payas, Dubuisson et Marie, je le suppose. En tout cas, entre Dubuisson et Payas, c'est certain. Des dessins avec beaucoup de répétitions de mots, on retrouve souvent. Donc ça, c'est un cahier qui a été fait dans les années 1914. Donc, tantôt, on trouve des profils de militaires, mais c'est quand même assez rare. Et des répétitions de mots, vous n'aurez pas du papier toujours, vous n'aurez pas du papier toujours, toujours vous n'aurez pas du papier, toujours vous n'aurez pas du papier, un peu comme des punitions. Et là, encore le Jaurès, qui lui représente fréquemment des scènes politiques, et des énumérations de chiffres et des énumérations d'objets. Et là, c'est un cahier de 1914, où on voit des dessins de hiéroglyphes, de dolmens. Et au milieu, après ces dessins de hiéroglyphes, on voit le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, qui montre une bataille. Et puis, les pages suivantes, on voit d'autres dessins, donc de tracés très très denses, très virulents, avec juste des mots, les ascensions futures et les sciences, les arbres des sciences pour la page d'à côté. Et là encore, ces alternances de formes figurées ou presque, comme peut-être le dessin qui est en haut pourrait presque évoquer un conflit, des explosions, choses comme ça. Mais là, bon, je suis déjà dans une forme d'interprétation. Alors, suite à cette rapide évocation de ces deux collections, juste une petite prolongation avec ces trois photos de broderie de Jules Leclerc pour dire que les conflits, quand ils peuvent être ressentis par des personnes, et ces images, peuvent perdurer pendant très longtemps dans leur imaginaire et ressortir des années après. Donc on voit chez Forestier que ça va durer, que jusque dans les années 40, c'est quelqu'un qui meurt dans les années 1950, mais il va faire des soldats, des militaires. Et Jules Leclerc, lui, c'est un patient qui va être hospitalisé à Armentières en 1940 et qui va, à partir de la fin des années 40, on ne sait pas exactement précisément quand, commencer à broder. Et une grande série de ces broderies représente des soldats. Et là, celle qui est à droite est sans doute une des plus anciennes, puisqu'en fait, il récupérait des morceaux de chiffon, des morceaux de tissu. Il avait été lui-même chiffonnier avant la guerre. Il avait fait la Première Guerre mondiale, on le sait. Il avait été aussi après sur le conflit du Rif, de la guerre du Rif. Et toutes ces images, elles vont revenir et apparaître des années après, en prenant des formes multiples, sans beaucoup d'explications dans son travail, mais on sent comme ça une sorte comme une sorte de transfiguration de la guerre, si je peux me permettre de dire ça. Et peut-être aussi pour lui, ça a été aussi une autre façon de soigner sa propre maladie, en brodant et en racontant, sans en dire grand-chose, en fait, certains passages de sa propre vie. Voilà, je vous remercie.